Vent s'intéresse aujourd'hui à la ruée sur les terres agricoles. La Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, le Japon et l'Arabie Saoudite disposent à eux 5 de près de 8 millions d'hectares agricoles en dehors de leur pays. Pas un jour ne se passe sans que des terres soient cédées à des investisseurs étrangers par des États où la souveraineté alimentaire n'est pas toujours assurée.
Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère. Cette ruée est une véritable menace pour les petits paysans qui vivent sur ces terres exploitées par des grandes compagnies étrangères. Exemple à Madagascar, où l'étendue des terrains convoités par la Corée du Sud n'est pas passée inaperçue. La grande braderie des terres à Madagascar, un reportage de Lydia Benitzak.
Du vent. Reportage.
Fin janvier 2009, des émeutes éclatent à Tananarive. On y croise les ambulances qui transportent les blessés et les morts. Le jeune maire de la capitale, Andira Jouel, surnommé TGV pour la rapidité de ses méthodes, conteste le pouvoir du président Marc Ravalomanane. Un coup d'État qui a conduit le pays à une situation transitoire en attendant de nouvelles élections. L'élément déclencheur à l'origine de ces contestations, c'est l'annonce d'un accord avec la Corée du Sud. Le consortium Daewoo aurait obtenu l'autorisation d'exploiter pendant 99 ans et gratuitement 1,3 million d'hectares de terres malgaches. Dans un contexte mondial d'accaparement des terres des pays pauvres, la population est sous le choc.
Le président ne dit pas et aussi qu'il vend notre pays. Nous n'acceptons pas ça.
C'est la révolte d'une population affamée, d'une population pauvre contre une petite minorité de riches et de privilégiés.
À Tananarive, sur le bâtiment du siège de Daewoo, les lettres de l'enseigne ont vite été retirées. Et depuis, la société a créé des filiales pour brouiller les pistes. L'une d'entre elles s'est baptisée Tchak, qui signifie maïs en malgache, et poursuit les expérimentations transgéniques sur le terrain, alors que l'enquête administrative est en cours. En réaction, un collectif pour la défense des terres malgaches s'est constitué. Le rapport de force est inégal, ces pétitions et enveloppes timbrées contre multinationales soutenues par les États. Mamra Kutundrainibe est membre de ce collectif.
Dans le dossier Daewoo, qui m'a choqué autant que les autres membres du collectif, c'est d'abord l'ampleur des surfaces concernées, l'histoire des OGM, le fait que donner tant de surface, tant d'hectares aux Sud-Coréens priverait les Malgaches de terres de culture. Certes, certaines parties, certaines surfaces n'étaient pas encore cultivées, n'étaient pas exploitées, mais pour moi, le rôle d'un gouvernement aurait plutôt été d'aider les paysans malgaches et les malgaches à entretenir, exploiter pour une production pour la population locale. Et enfin, l'autre point qui m'a choqué particulièrement était l'idée que dans ce contrat, dans ce projet, il était encore une fois question de faire venir des travailleurs venant de pays étrangers, ce qui est déjà le cas sur les exploitations minières. Et je suis désolée, faire venir plus de 70 000, je crois que c'était du Sud-Africain, exploiter les terres, c'était pour moi quelque chose d'incroyable et d'inacceptable par rapport aux paysans malgaches qui constituent 85% de la population et dont la plupart ont besoin de formation et d'aide et d'assistance et de renforcement des capacités pour pouvoir exploiter leurs terres.
Philippe Randriari-Manana, 1,3 million d'hectares pour qu'on se représente, ça fait à peu près deux départements français, c'est des zones immenses et apparemment il ne s'agissait pas seulement de nourrir les Coréens, c'était également pour spéculer vraiment sur les marchés des céréaliers à venir.
C'est dans un contexte international où bien sûr on a vu que les matières premières, les céréales, sont devenus des objets de spéculation et que des gens investissent sur ces denrées dans le but de faire jouer les taux, les marchés et pas du tout pour des raisons alimentaires ou humanitaires, j'allais dire, mais purement financières. Et donc de ce point de vue, Madagascar, c'est un pion dans un grand jeu.
C'était pas la seule chose choquante, puisque au même moment, bizarrement, Marc Ravalomanana se paye un jet privé de 60 millions de dollars. Et c'est un petit peu cet ensemble d'événements qui a déclenché la situation actuelle.
C'est vrai que l'affaire Daegu et puis l'affaire de l'avion présidentiel Air Force 2, hein, puisqu'il en avait déjà un, de 60 millions de dollars, donc ça a été deux éléments accélérateurs, hein, et même peut-être plus de par l'impact que ça peut avoir sur la population, je pense aux terres en particulier, mais je crois qu'il y a aussi d'autres aspects de la politique de Ravalomanana qui étaient mis en cause, et ça faisait 7 ans qu'il était là. Et je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui ne plaisaient pas et qui ont été dénoncées aussi. Mais effectivement, il y avait une sorte de fuite en avant dans des décisions, des choix qui étaient très inquiétants, quoi.
Et personne n'a osé parler de dessous de table malgré la synchronisation de ces deux événements.
Non, c'était d'autant plus difficile que pour avoir des informations ou des preuves sur cette extrêmement difficile, et d'autant plus à Madagascar, où on ne pouvait pas toucher à Ravalomanana, on va dire, aux affaires sensibles.
Et quand on connaît l'attachement des Malgaches à leur terre des ancêtres, même en dehors de la question agricole et de la spéculation, c'est particulièrement choquant de brader ainsi des terrains aussi grands.
Nous avions appris entre-temps qu'en fait, de nombreuses surfaces, de nombreuses régions ont fait l'objet de contrats et de cessions par d'autres pays ou d'autres compagnies. Et donc nous avons généralisé nos revendications en insistant sur le fait qu'il fallait que le pouvoir en place fasse preuve de transparence et publie tous les contrats dans leurs détails, d'un côté, et de l'autre côté, facilite l'acquisition de terres et de titres fonciers par les Malgaches. Parce qu'en fait, tout ce drame se situe dans un contexte où, dans le passé, selon la tradition, les Malgaches n'avaient pas de titre foncier. Les familles qui cultivaient, qui vivaient dans un endroit, étaient supposées être les propriétaires, sauf quelques familles riches et quelques autres personnes qui avaient des titres. Et depuis 2003, les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale ou le FMI, ont beaucoup poussé la mise en place de titres de propriété selon les méthodes modernes. Or, c'est très difficile pour les paysans et les familles malgaches, puisque d'abord les procédures et les circuits sont hyper compliqués et ne sont pas vraiment clairs. À un moment, on nous parlait de 22 étapes à franchir. Et puis, ben, tout cela est payant. Et puis, les services des domaines n'existent pas partout, donc les gens ne peuvent pas. Et donc, l'acquisition d'un titre, même si on connaissait les démarches à effectuer, même si on était prêt à les effectuer, durer des années. Nous avons nous-mêmes dans nos familles respectives des cas qui ont duré des années. Alors que face à cette facilitation extrême de l'acquisition de terres par les sociétés étrangères et les pays étrangers, initiée en 2003, puis renforcée et facilitée de manière inacceptable également en 2007 et 2008, les lois ont mis en place des structures et des méthodes qui facilitent trop l'acquisition et les démarches administratives, et ont même changé les lois qui auparavant ne permettaient pas à des étrangers d'acheter des terres à Madagascar. Les compagnies ont le droit d'avoir des terres, mais pas les personnes étrangères, morales ou physiques. Donc nous contestons également cela parce que c'est inacceptable, non seulement par rapport à la tradition malgache, mais également par rapport au déséquilibre et à l'injustice qui existe entre les familles et les paysans malgaches d'un côté et les sociétés étrangères de l'autre.
Alors là, pour faire le point sur la situation actuelle, on dira Joël, qui est donc dans un gouvernement de transition, apparemment aurait reconduit finalement tous les contrats qui avaient été menés par Marc Ravalomanana.
Ben, c'est assez flou, et c'est vrai que on est encore dans une situation où on observe, on se pose des questions sur les intentions des nouvelles autorités, du nouveau pouvoir et du nouveau président de la Haute Autorité de Transition. Il l'a toujours dénoncé pendant les manifestations et les revendications qu'il a fait dans la rue, qu'il était contre cette cession de terre à Daegu, qu'il a qualifié de trahison. Et il a dénoncé aussi l'affaire de l'avion. Mais par la suite, après sa prise du pouvoir, après le 17 mars donc, il a fait des déclarations d'emblée à des journalistes dans lesquelles il laissait entendre qu'il allait appliquer ce qu'il avait annoncé. Sauf que depuis, on n'a pas vu trop de passage à l'acte, hein, sur ces questions. Sur l'affaire Daegu, là aussi, il y a eu des annonces il a dit que c'était terminé, mais d'un autre côté, il y avait les responsables de Daewoo à Madagascar ont, eux, dit ouvertement à la presse qu'ils n'avaient même pas été informés que le projet avait été annulé. Donc il y a des contradictions qui font qu'on ne sait pas trop ce qu'ils comptent faire vraiment. Et surtout, on sait qu'ils ont un besoin de financement et que donc il y a peut-être la tentation de finalement essayer d'enrober les choses pour qu'elles passent mieux, plus facilement. Donc c'est sur ce point-là, il faut être vigilant.
Dans certains endroits, les tombeaux sont... On les transporte à un autre endroit.
Ah, délocalisés.
Délocalisés.
Ah oui.
Et dans d'autres endroits, les paysans, les habitants des villages ne sont pas conscients de ce problème et donnent dans un premier temps ou louent leur terrain. Et comme dit un de nos témoins originaires d'un de ces localités, c'est le jour où ils vont aller enterrer leurs morts qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont obligés de traverser des terrains qui ne leur appartiennent plus ou d'aller sur des terrains qui ne leur appartiennent plus.
Sur la carte, Daewoo a dessiné ces zones de monoagriculture intensive dont le constat d'échec a pourtant été fait de longue date dans les pays du Nord. Telles une ligne comptable, ont été considérées comme terres arables indifféremment les tombeaux des ancêtres, le patrimoine malgache, les zones de biodiversité uniques au monde. Sur le papier, les terrains ont été destinés à l'est à l'agrocarburant et à l'ouest au maïs transgénique. Lucie Lalorge, botaniste.
Tout d'abord, c'est une hérésie complètement, puisque dans ces deux, que ce soit au nord-est, que ce soit sur la côte ouest, au-dessus de Murundave, et il y a donc naturellement des choses qui sont déjà préservées, qu'il sera hors de question de changer. Il y a la presqu'île de Machoual qui entre dans leur projet, mais il y a déjà beaucoup de cultures sur cette côte-là, puisqu'il y a toute la culture de la vanille, et il y a déjà la culture aussi d'une immense cocoteraie au nord de Voema. Donc, déjà, je ne vois pas trop comment ils peuvent étendre les terres cultivées de ce côté-là. Tout ceci, surtout, pour cultiver du maïs. Du maïs qui est destiné à essentiellement à la Corée du Sud. Et ce maïs, c'est essentiellement pour nourrir les animaux, surtout. Donc, détruire une forêt primaire, tout ça pour aller nourrir des animaux, c'est d'une inconscience absolue.
Un certain flou est volontairement maintenu sur la nature des engagements vis-à-vis de Daewoo. Accord ou pas accord avec l'ancien gouvernement malgache, somme versée, acquis, démenti par des déclarations dans les médias, comment annule-t-on un accord qui n'existe pas ? Sur le terrain, Isidore Michel Tsimiante, responsable de l'éducation environnementale de Marounset, semble convaincu que les zones de réserve protégées ne risquent rien, alors que la péninsule de Machoual semble incluse sur la carte parue dans la presse.
Il y a Daewoo qui avait démenti à la télé, et puis il y a le président de la République aussi qui a démenti que l'accord n'est pas encore fait.
Oui, mais Machoual est bien dedans.
Non, jamais Machoual était dedans. Parce que Machoual, c'est déjà un parc, dans le patrimoine mondial. Oui. C'est pas possible qu'ils peuvent faire ça. D'ailleurs, ils ont démenti, et l'accord n'est pas encore fait. Oui. Le gouvernement aussi a démenti, ce qu'il y avait dans le journal.
Le nouveau gouvernement de transition a également reconduit des contrats miniers qui étaient aussi montrés du doigt comme étant très dévastateurs de l'environnement.
Oui, parce que les grands projets miniers qui sont en phase d'exploitation actuellement, c'est celui de nickel et de cobalt dans Batouvi, à l'est. Et puis, il y a un autre très grand projet au sud du pays, du côté de Fort Dauphin, de QMM, en fait, c'est de l'expression d'ilménite, mais ces projets avaient déjà été entamés il y a bien longtemps, quoi. Il y a plusieurs années, ça date de plusieurs régimes, en fait, se sont succédés, et ces projets avaient déjà été initiés, et là, ils rentrent en phase de production. Alors, étant donné qu'ils ont un besoin urgent de financement, cette quête de financement et de partenaires étrangers peut les pousser à faire le contraire de ce qu'ils ont annoncé. Par exemple, même si on n'a pas encore de détails sur l'affaire le protocole de contrat avec des investisseurs saoudiens qui a été annoncé tout récemment, qui porte sur 2 milliards de dollars, là aussi, on ne sait pas trop où ils veulent aller. Et en gros, je crois que on ne sait pas encore quelle est la politique en matière d'investissement minier et de terre des nouvelles autorités. Parce qu'il y a eu des déclarations et maintenant on attend vraiment qu'ils passent à l'acte et qu'ils montrent clairement leur position.
La mine d'Ambatouvi est l'un des plus gros chantiers d'exploitation de nickel, de cobalt et de chrome au monde. On y croise les bulldozers. L'exploitation à ciel ouvert en pleine forêt endémique prévoit d'acheminer le minerai par des pipelines de 220 km jusqu'à Tamatave.
Et là, il y a combien d'ouvriers qui travaillent ici, à peu près ? On sait ? Des milliers ?
Les habitants alentour, habitués à se taire, ne pensent même pas à protester. Ils s'adaptent, contournent, comme inconscient de la menace, à l'image de cet homme que l'on croise à bicyclette.
Environ il y a deux heures et demie.
Ah oui, donc il est loin de la mine,
il n'est pas embêté. Donc il vit avec les cultures, il amène là, il amène son culture, là, son récolte.
C'est quoi ?
Des haricots. Haricots blancs, rouges. Ils vont les vendre, là. Ami, t'as dit, amené, qui n'a t'es qui ?
Ah, en train de mourir, manger, mis. A quoi n'est-ce que tu as voré, t'en ?
Ah.
Son bourdon, j'aime voir, tu vois, manger dans l'ambiance.
Et il va amener ça à Mouramanga. De 37 km, donc environ 37 km de son village, parce qu'il est 33 km de la mine d'Ambatouvi. Parce que c'est interdit de vendre ça dans le chantier.
Ah, il se méfie,
ouais. Non, parce que ça dérange personnel.
Et lui, ça le dérange, la mine, ou il s'en fiche, ou...
Non, ça ne dérange pas lui, parce qu'ils sont loin de lui. Donc, parce que la mine, ils ne vont pas jusqu'à... C'est lui. Pour le moment, mais on ne sait pas après.
Pour répondre aux normes internationales de protection de l'environnement, des scientifiques ont été recrutés pour recenser les espèces qui vont disparaître sur ce site et tenter de mettre en pépinière les plantes qui ne poussent qu'ici pour les replanter ailleurs en espérant qu'elles survivront au changement brutal d'écosystème. On rencontre deux hommes en uniforme, des antennes métalliques à la main.
Il a dit cette zone-là, c'est en réserve. Donc là, ils ont travaillé ici jour et nuit pour suivi de la vie de lémurien. Parce que cette zone-là, c'est pas dans la mine, c'est une réserve.
Mais ça va être détruit quand même, ça, cette
non,
partie.
Non, ça ne détruit pas, c'est protégé, sur cette zone-là.
Et lui, il étudie le comportement ?
Il travaille dans un projet des environnements, en fait.
D'accord. Et pourquoi il porte un casque?
Donc en fait c'est un uniforme d'équipement de l'uniforme de la légende de protection.
Comment elle s'appelle l'agence là?
Casque.
Biocamp. Donc il y a toutes les spécialistes dans le biocamp. Il y a des ornithologues, il y a des botanistes, il y a aussi le biologiste.
Là, on arrive au sommet donc de la montagne et comme on a un point de vue sur la forêt primaire, on s'aperçoit bien de la diversité de ces forêts, avec des troncs qui sont blancs, des troncs marrons, des cimes qui sont arrondies, d'autres qui sont élancées. On a toute la structure de la sylve à lichens, et avec les lichens naturellement qui pendent aux arbres. Voilà, ça c'est la typique des forêts d'altitude, et avec un très haut taux d'humidité.
Mais là, cette forêt primaire, quand même, elle est bien menacée par les mines de nickel qu'on a vues en arrivant là.
Celle-ci, elle est protégée, donc heureusement, elle a été protégée assez à temps pour le faire, mais malheureusement, les mines de nickel vont traverser une partie quand même de la forêt primaire sur calotte, c'est-à-dire sur les cimes de ces forêts, Et c'est une trouée, effectivement, très importante qui est en train de se faire en ce moment.
Oui, on sait que ça fragilise vraiment dès qu'il y a une trouée.
Alors, le gros problème, c'est que dès qu'une route est faite, il va y avoir des gens qui vont se déplacer de plus en plus facilement, qui vont venir faire du charbon à bois. Et s'il n'y a pas une surveillance importante sur ces forêts, à terme, ça va être effectivement l'exploitation du bois. Ça permet aux camions de rentrer, d'emporter donc des troncs d'arbres et tout. Et c'est vrai que c'est une menace considérable pour des forêts primaires dès qu'il y a un accès à l'intérieur d'une forêt.
Peu habitués à une certaine liberté d'expression, certaines révoltes ayant été réprimées très brutalement, les Malgaches n'osent pas s'exprimer frontalement et cet habitant de la région préfère garder l'anonymat.
Ça, c'est des fractures de construction des mines de graphite à PK18. La route est construite en 1989. Et les responsables des mines de graphite étaient à un papier pinu, pas par le gouvernement et par le ministère des Forêts.
Donc là, il y a une nouvelle mine de cobalt et il y a du nickel aussi, du chrome.
Les mines de cobalt, c'est ici au nord de Mouramangue, c'est en Batouvi. Mais là, il y a quelques parties des forêts primaires complètement détruites.
C'est-à-dire qu'ils ont fait des grandes saignées dans la forêt pour faire passer les tuyaux.
Oui, les tuyaux qui commencent aux mines de cobalt jusqu'au port de Tamatave pour transporter des cobalt, des quelque chose. Il y a aussi des quelque chose dedans, comme des fers et d'autres pierres précieuses, mais nous ne savons pas très bien qu'est-ce qu'il y a encore des choses très importantes dans les mines de cobalt.
Et qui est-ce qui exploite ces mines alors?
C'est une grande compagnie.
Mais grande compagnie, quel pays?
Tous les pays riches qui financent pour les mines.
Mais là, on sait très bien que ça va détruire la forêt très rapidement. Enfin, on a plein d'exemples passés.
Oui, c'est détruire la forêt peut-être très vite, mais c'est vraiment difficile pour moi pour critiquer là, parce que j'ai perdu beaucoup pour la loi de Madagascar.
Oui. Ah oui.
Il y a des choses, c'est pas tellement bien dedans. Il y a des choses bien, par exemple, pour l'argent de Madagascar. Mm-hmm. Mais il y a des choses très, très mauvaises dedans. Mm-hmm. Mais j'ai peur de critiquer du tout.
Vaina Ladougué, chercheur en économie de ressources naturelles, s'inquiète particulièrement de la situation à Fort Dauphin, dans le sud du pays, autre contrat apparemment reconduit par l'autorité de transition.
C'est un contrat qui est signé pour 99 ans et que la biodiversité locale va être donc touchée et ça ne deviendra jamais à l'état initial en fait. Donc c'est pour ça que je dis il y a des coûts qui sont incommensurables, c'est-à-dire que on ne peut même pas évaluer en termes monétaires ce que représenteraient ces coûts pour la population mais aussi pour les générations qui sont à venir. Et là c'est un exemple que j'ai pris, mais il y a plusieurs contrats qui sont à peu près du même caractère, donc l'exploitation des ressources naturelles à Madagascar et qui, de la même manière, sont faits sans forcément être connus par le public et sans forcément qu'il y ait eu des études d'impact environnementaux faits par des acteurs indépendants. Pour Fort Dauphin, par exemple, il y a eu des études d'impact, mais c'est des scientifiques qui ont été payés par l'entreprise. En termes de dégâts écologiques, donc il y a la construction du port qui signifie qu'on touche à l'écosystème marin. On va avoir un port en eau profonde, on pense construire un port international et la construction est en cours. Ça signifie qu'il y a eu un saccage de la biodiversité naturelle. Et ce qu'il y a aussi, c'est que l'extraction d'ilménite va entraîner la création de déchets qui vont être enfouis dans cette propre biodiversité. Et il faut noter des risques qui sont importants en termes de santé, en termes de santé publique, en termes de perte de certaines espèces qui vont disparaître de manière irréversible dans cette zone. Au niveau de la signature de ces contrats, on n'a jamais demandé l'avis des populations malgaches. Ça a toujours été signé par l'État et il faut qu'à Madagascar, on arrête ce type de méthode. Ces dégâts, ce sont les populations qui vont les subir. Beaucoup de gens apprennent via des gens en France ou via des scientifiques étrangers sur les risques qui peuvent être entraînés par ce genre de projet. On constate qu'on a un État finalement qui, là je ne parle pas de personne, je parle d'un État défaillant qui est incapable de défendre l'intérêt de sa population, et il est temps qu'à Madagascar l'État se mette aussi au service du peuple et arrête de servir les intérêts privés extérieurs.
Ce reportage de Lydia Benitzak, une enquête administrative est en cours, mais la plupart des contrats semblent avoir été reconduits par la haute autorité de transition. Actuellement, les quatre mouvances politiques tentent de se mettre d'accord sur les modalités d'un nouveau gouvernement de transition, mais les négociations s'enlisent. En juin dernier, une bonne nouvelle quand même, un tout nouveau parti écologiste malgache s'est créé pour protéger un fleuve dans le sud du pays contre des convoitises saoudiennes.
C'est pas du vent, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous recevrons la secrétaire française des Verts, Cécile Duflot, et nous partirons en Inde à la rencontre d'une grande dame, Vandana Shiva. À demain donc, même planète,
même heure.